timoré cum tremore, avec crainte parce que je ne suis pas historien, avec tremblement parce que j'essaie de faire de la philosophie et que les historiens pensent que la philosophie est un soporifique puissant, apparenté à la famille des benzodiazépines. Je voudrais contribuer à l'hommage qui est fait aujourd'hui à la mémoire du professeur Mounier en parlant de cette histoire des variations de Bossuet. De façon un petit peu rapide, j'ai intitulé cette intervention, cette communication « Actualité de l'histoire des variations de Bossuet ». Le titre exact pourrait être plutôt « Actualité de la méthode apologétique de Bossuet dans son histoire des variations des églises protestantes » et plus particulièrement au livre 15 sur l'article de foi « Je crois l'église catholique ». Vous voyez, c'est tout à fait soporifique. On pourrait même dire « Défense et illustration de la philosophie réaliste et plus particulièrement du principe d'identité ou de non-contradiction dans l'histoire des variations des églises protestantes de Bossuet ». S'il y a des survivants qui veulent bien me le dire. Le propos qui est le mien m'est inspiré au fond par une ligne de M. le recteur Durand dans la notice qu'il a consacrée à la mémoire du professeur Mounier dans la revue du XVIIe siècle. Vous disiez, M. le recteur, le professeur Mounier aimait lui-même à se dire réaliste au sens thomiste du terme, en catholique romain convaincu. Ce matin, le père Blé nous a montré qu'il était effectivement thomiste, puisque, s'agissant de l'assassinat d'Henri IV, il l'analysait de façon syllogistique, en proposant dans une majeure des réflexions de théologie morale et dans une mineure des considérations historiques. Monsieur Le Flemme lui-même nous disait que le professeur Mounier trouvait que la valeur de la civilisation occidentale tenait à sa façon de manier le syllogisme. Vous dites, vous, monsieur le recteur, à la fin de votre article, qu'il eut beaucoup d'admiration et de sympathie profonde pour Richelieu, à travers Richelieu pour tout le XVIIe siècle. Je pense essayer de dire quelques petites choses sur cette admiration et sur cette sympathie de Roland Mounier pour le XVIIe siècle, à travers justement son réalisme, à travers son thomisme, qui ne peut pas évidemment se dissocier de son catholicisme. Et c'est pour cela que je voudrais, avec vous, rapidement ce soir, étudier cette histoire des variations de Bossuet. Nous verrons à la fois un réalisme thomiste et un catholicisme tout à fait orthodoxe. Je diviserai cet exposé en deux points. Premièrement, l'histoire des variations des églises protestantes. Nous verrons ensemble l'argument de cet ouvrage de controverse, ensuite les sources qui furent celles de Bossuet, le plan qu'il a adopté et enfin quel était le but qu'il se proposait. Puis, dans une seconde partie, nous intéresserons tout particulièrement à ce livre 15. Tout d'abord, l'ouvrage de controverse de Bossuet doit être situé dans un contexte historique. Il est certain qu'au XVIIe siècle, et c'est ce que nous apprend Rebellio dans son ouvrage « Bossuet, historien du protestantisme », la réforme avait bien oublié ses hardiesses primitives. Les protestants étaient arrivés à envisager eux aussi la religion comme un dépôt objectif de vérité, sorte de trésor extérieur à l'homme, que Dieu avait, une fois pour toutes, livré au monde, et que le monde n'avait qu'à conserver dans son intégrité. Voilà pourquoi, pour les protestants comme pour les catholiques, c'est une maxime reçue au XVIIe siècle, que celle-ci, perpétuité et marque de vérité, variation, marque d'erreur. Et vous avez là la clé, bien évidemment, du titre de l'ouvrage. Variation, changement, mutation, et marque d'erreur s'agissant de la transmission, de la tradition du dépôt révélé. Il ne peut y avoir que perpétuité ou évolution homogène, si l'on veut, mais certainement pas variation. L'argumentation de Bossuet dans ce livre est empruntée au De prescriptione hereticorum de Tertullien, plus précisément au chapitre 42. Tertullien dit en effet, et Bossuet le traduit au paragraphe 2 de sa préface, « Les hérétiques varient dans leurs règles, c'est-à-dire dans leur confession de foi. Chacun parmi eux se croit en droit de changer et de modifier par son propre esprit ce qu'il a reçu, comme c'est par son propre esprit que l'auteur de la secte l'a composé. L'hérésie retient toujours sa propre nature en ne cessant d'innover, et le progrès de la chose est semblable à son origine. » Bossuet entend donc prouver aux protestants que l'histoire de leur religion, prétendue réformée, n'est qu'une série de réformes de la réforme, ou de schismes du schisme de Luther. À ce fait historique, il veut opposer le catholicisme, dont, dit-il, la règle de foi est immuable et ne se réforme point. Pour le fond, l'Aigle de Meaux propose, dans l'histoire des variations, un développement de l'argument de prescription. Par cet argument, Tertullien fait valoir la prescription théologique contre les novateurs, en montrant la priorité de date de la vérité sur l'erreur. C'est ce que l'on trouve dans le De prescriptione au chapitre 21. Bossuet s'en est déjà servi dans l'histoire universelle, livre 2, chapitre 31. Et il s'en servira, après l'histoire des variations, dans la première des instructions pastorales sur les promesses de l'Église, au chapitre 26. Là, d'ailleurs, il conclut, cet argument, l'argument de prescription de Tertullien, est égal contre toutes les hérésies, elles y sont toutes également convaincues. Mais ici, dans cette histoire des variations, il veut prouver que partant d'une première nouveauté, on obtient un enchaînement fatal de nouveautés, qui petit à petit s'écartent des positions initiales et se contredisent mutuellement. Que la pensée hérétique entretient par une forme de logique interne une série de contradictions successives. Deuxième point de cette première partie, quelles ont été les sources? Eh bien, Bossuet s'est adressé exclusivement aux sources protestantes. Il a voulu ne se pencher que sur les documents officiels que lui fournissaient les protestants. Pour asseoir sa démonstration de façon inébranlable, il tire son histoire des sources protestantes elles-mêmes et des plus sûres. Il veut montrer aux hérétiques la manière changeante dont ils ont expliqué leurs dogmes. Et pas seulement en particulier, dit-il, mais encore d'Église, dans les livres qu'ils appellent symboliques, c'est-à-dire dans ceux qu'on a fait pour exprimer le consentement des Églises. En un mot, dans leur propre confession de foi, arrêtée, signée, publiée, dont on a donné la doctrine comme une doctrine qui ne contenait que la pure parole de Dieu et qu'on a changée néanmoins, en tant de manière, dans les articles principaux. Fin de la citation, on trouve cela dans la préface de l'Histoire des variations, au paragraphe 8. Dans cette tâche importante de documentation, Bossuet se révèle d'une grande exigence intellectuelle, presque d'une grande rigueur scientifique. En toute cette controverse, il remonte aux textes originaux, aux documents inédits des protestants eux-mêmes, grâce à la collaboration d'un Mabillon, fut un bénédictin mauriste avant de devenir un restaurant universitaire. Il s'apprend, dit Rebellio toujours, il s'apprend et de bon cœur à manier régulièrement les procédés d'une exactitude rigoureuse, littérale, terre à terre, à la bénédictine, car il en aperçoit la vertu. Troisième point, quel est le plan d'exposition? Eh bien, dans toute l'histoire des variations, le plan d'exposition est un plan simplement chronologique, sauf au livre 15, qui là sera un plan synthétique. Mais Bossuet pense qu'il est très efficace, et il l'explique dans sa préface au paragraphe 33, qu'il suffit de laisser se dérouler ainsi ces différentes professions de foi, confessions, pour s'apercevoir qu'elles se contredisent. Année après année, en divers points de l'Europe, il suit la formation et les déformations de cette doctrine, sans en distinguer les différents articles, sans les traiter chacun séparément. Il dit donc, dans sa préface, paragraphe 33, « Il est certain que par ce moyen, les variations des protestants et l'état de leurs églises sera mieux marqué. On verra ainsi plus clairement, en mettant ensemble sous les yeux les circonstances des lieux et des temps, ce qui pourra servir à la conviction ou à la défense de ceux dont il s'agit. » Quatrième point, quel est le but? Qu'est-ce qu'il envisage? Évidemment, Bossuet est prêtre, il est même évêque à cette époque-là, l'ouvrage est de 1688. Il travaille à la réunion des protestants à l'Église romaine et il veut faire briller d'un plus vif éclat la vérité catholique. En centrant le débat sur les questions essentielles à l'Église, les articles de foi reconnus officiellement, Bossuet pense débarrasser ce débat d'une partie des préjugés incontrôlés, qu'il entrave considérablement, en prouvant par l'exposé de faits historiques indéniables cette série de schismes. Il vise à en faire sortir le fruit de libre pensée rationaliste qui en est au principe. De sorte qu'en présence de cette démonstration solide, de cette conclusion évidente, le protestantisme effrayé revienne s'abriter dans cette église où seulement le surnaturel chrétien peut se conserver intact. Et il donne bien son but au paragraphe 29 de sa préface. Le propre de l'hérétique, c'est-à-dire de celui qui a une opinion particulière, aireo en grec, je choisis, je sélectionne. Le propre de l'hérétique, celui qui a une opinion particulière, est de s'attacher à ses propres pensées. Et le propre du catholique, catholicos, c'est-à-dire de l'universel, est de préférer à ses sentiments le sentiment commun de toute l'Église. C'est la grâce qu'on demandera pour les errants. Tels sont donc l'argument apologétique, les sources, le plan et le but de Bossuet. Mais dans cet ensemble où tout doit concourir donc à la conversion des protestants, le livre 15, qui est le dernier livre de l'ouvrage, tient une place particulière. Laissant son exposé chronologique, comme je vous l'ai dit, l'auteur adopte là une disposition synthétique de la matière et il en donne la raison, toujours dans sa préface, cette fois-ci au paragraphe 24. Il n'y a qu'une controverse dont je fais l'histoire à part, et c'est celle qui regarde l'Église. Matière si importante et qui seule pourrait emporter la décision de tout le procès, si elle n'était aussi embrouillée dans les écrits des protestants qu'elle est claire et intelligible en elle-même. Pour lui rendre sa netteté et sa simplicité naturelle, j'ai recueilli dans le dernier livre tout ce que j'ai eu à raconter sur cette matière, afin qu'ayant une fois bien envisagé la difficulté, le lecteur puisse apercevoir pourquoi les nouvelles églises se sont senties obligées à tourner successivement de tant de côtés ce qui, dans le fond, ne pouvait avoir qu'une même face. Et je passe à ma deuxième partie, le livre 15. Ici, si vous le voulez bien, nous diviserons le propos en trois points. Nous verrons l'argument logique. Il se subdivise lui-même en trois sous-parties. Puis nous verrons la méthode d'exposition impartiale. Et enfin, quelle est la doctrine sous-jacente? Et c'est là, j'espère, que vous verrez ce que Mounier pouvait apprécier dans le réalisme et le catholicisme de ce siècle-là. J'essaie de baliser pour faire en sorte que ça ne soit pas trop soporifique. L'argument logique se subdivise en trois points. En effet, dans un premier temps, Bossuet, donc, utilisant tous les documents qui lui ont été fournis, tout ce qu'il a lui-même recueilli, va faire l'exposé des confessions de foi protestantes. Ensuite, il va étudier les discussions des ministres protestants, Jurieux, Claude. Et enfin, il va réaffirmer le dogme catholique. Alors, je vais vous donner brièvement le résumé de ce livre 15 en trois temps. Tout d'abord, donc, vous allez voir cette rigueur dont nous parlions dans la première partie. Il indique, dès les premiers paragraphes, que c'est la fausse conception qu'ils avaient de l'Église qui est la cause de toutes les variations des protestants. Faute d'une doctrine ferme, sur cet article de foi capitale, ils n'ont pu qu'errer, livrés au raisonnement humain ou à leur passion particulière. À cette lamentable inconstance, notre auteur va opposer l'immutabilité, bien sûr, de l'enseignement catholique sur l'Église, société visible, indéfectible et infaillible. Il dresse le catalogue de toutes les hérésies qui se sont écartées de cet enseignement. Il cite toutes les confessions de foi protestantes à ce sujet. La confession d'Augsbourg, son apologie, la confession saxonique, celle de Wittenberg, de Bohême, de Strasbourg, les deux confessions de Bâle, la confession helvétique, la Belgique, la doctrine de l'Église anglicane, la confession d'Écosse, le catéchisme des prétendus réformés de France, la confession de foi des calvinistes de France en ses différents articles, enfin les articles des synodes de Gap et de La Rochelle. Mais ce n'est pas un ouvrage à proprement léger. Dans cette accumulation de professions de foi, les unes se renforçant mutuellement, les autres se contredisant entre elles, tout se réduit au problème suivant. Où était l'Église du Christ avant la Réforme? Bossuet remarque bien que les protestants ne signalent comme note de l'Église que la vraie prédication de l'Évangile et la droite administration des sacrements, écartant de ce fait toutes les notes catholiques. Cependant, ils ne peuvent se dispenser de se prononcer sur la visibilité de l'Église. Dans un premier temps, les professions de foi, tant luthériennes que calvinistes, définissent l'Église société visible, selon la commune idée des chrétiens. De la sorte, on accordait aux sectes le statut d'Église et non pas simplement celui d'agrégat de particulier aux croyances singulières. De plus, on restait en conformité avec le sens obvi des Écritures à ce sujet. Mais une difficulté se posait. Où donc était cette Église vraie dans sa prédication et droite dans l'administration de ses sacrements avant la Réforme? Si elle était visible, on ne pouvait la reconnaître que dans l'Église catholique, visible depuis les origines, depuis sa fondation par notre Seigneur Jésus-Christ. Mais alors, c'est dire que les chrétiens faisaient leur salut dans l'Église romaine avant la Réforme. Alors pourquoi la Réforme? Pour pallier ces difficultés, les professions de foi que Bossuet passe en revue ont proposé différents états de l'Église, en disant qu'à la vérité, l'Église n'était pas toujours dans l'éclat, mais qu'il y avait du moins dans tous les temps quelques petites assemblées où la vérité se faisait entendre. C'est Bossuet qui parle. À la fin, comme on a bien vu, qu'on n'en pouvait montrer dans l'histoire ni petite ni grande, ni obscure ni éclatante, qui fut de la croyance protestante, le refuge d'Église invisible s'est présenté très à propos. L'Église devenait le rassemblement des vrais fidèles, élus de Dieu et connus de lui seul. Ainsi, on retombait dans le premier travers signalé, les sectes protestantes perdait toute structure cohérente pour n'être plus que des congrégations de croyants, sans proposer d'autres autorités que disciplinaires, et le témoignage des Écritures était écarté. Aussi, devant ce nouvel embarras, les synodes de Gap et de La Rochelle, qui sont à la fin, n'est-ce pas, de cette longue citation de toutes les confessions de foi protestantes, devant ce nouvel embarras, les synodes de Gap et de La Rochelle tentent d'éluder la question de l'Église visible ou invisible, mais demeurait toujours la difficulté d'expliquer le pourquoi de la Réforme. On était alors réduit à faire intervenir une vocation extraordinaire des premiers réformateurs. Ils n'avaient donc d'autre crédit que le sentiment qu'ils éprouvaient d'être poussés intérieurement à leur ministère. Mais cette argumentation est extrêmement serrée et l'adversaire est là acculé. Acculé de la sorte par les critiques catholiques, les protestants revinrent aux positions antérieures. Au moment où Bossuet compose l'histoire des variations, voici l'état de la question. De nos jours, c'est lui qui parle, on a reconnu plus clairement que l'Église, réduite à un état invisible, était une chimère, inconciliable avec le plan de l'Écriture et la commune notion des chrétiens. On a abandonné ce mauvais poste. Les protestants ont été contraints à chercher leur succession jusque dans l'Église romaine. Deux fameux ministres ont travaillé à l'envi pour sauver les inconvénients de ce système. Et voici le deuxième point, c'est l'embarras des ministres Claude et Jurieu. Les contradictions des ministres Claude et Jurieu que Bossuet nous invite à contempler. Claude avance que les vrais fidèles pouvaient être de la communion romaine sans communiquer à ses dogmes et à ses pratiques. Jurieu vient au secours de Claude et établit le salut dans toutes les communions, du moment qu'y sont conservés les fondements du salut, la Trinité, l'incarnation, la satisfaction de Jésus-Christ et autres articles semblables. Ce faisant, il efface les principales difficultés doctrinales qui opposent catholiques et protestants. Là-dessus, Bossuet montre que Jurieu s'écarte de l'orthodoxie calviniste, qui préserve son intégrité en pratiquant l'excommunication. En définitive, il prouve que pour ces protestants, les professions de foi ne sont que des conventions arbitraires. Toute l'autorité des églises dépend des princes. Ce ne sont ensuite que subtilités où Jurieu contredit ses propres sources et même le témoignage de l'Évangile sur l'indéfectibilité de l'Église. Je suis avec vous, Matthieu 28, 20. En dernier ressort, Bossuet pousse à bout son adversaire, forcé d'avouer que pour conserver la doctrine protestante, il est obligé d'en changer le dogme principal, qui est la nécessité de l'Écriture. Le sola scriptura est ruiné. Demeure la libre pensée rationaliste, le subjectivisme le plus intempérant. Pour avoir refusé de se soumettre à une tradition qu'il croyait purement humaine, voilà les protestants à la remorque des pensées humaines les plus singulières. Troisième temps de ce livre 15, conclusion. Bossuet oppose à ce fatras de contradictions évidentes le dogme catholique, parfaitement cohérent, évoluant de façon toujours homogène. À l'appui de son raisonnement, il indique comment l'Église lutta contre l'hérésie de Béranger et ne fit qu'expliciter la doctrine de la transsubstantiation. Il précise l'enseignement catholique sur les points les plus discutés par les protestants, la grâce, le libre arbitre, les œuvres. Enfin, pour dissiper tous les doutes, lever les dernières hésitations, il récapitule la somme des absurdités contradictoires où se sont jetés les protestants et rappelle le sort des royaumes divisés contre eux-mêmes. Donc, trois parties, il faut l'avouer, d'inégale longueur. En premier lieu, l'exposé des confessions de foi protestantes sur la visibilité de l'Église, puis la discussion embarrassée des ministres, et enfin, le dogme catholique fermement établi. Deuxième paragraphe, quelle est sa méthode d'exposition? Comment est-ce qu'il travaille? Là, c'est très intéressant, apologétiquement parlant, parce que il se garde bien de commenter. Il ne donne pas d'interprétation. Il dit lui-même, la chose parle d'elle-même. Si je devais résumer dans une formule un petit peu concise, c'est maximum d'efficacité apologétique, minimum d'interprétation personnelle. Parce qu'il pense qu'effectivement, l'erreur engendre nécessairement la contradiction. Sa méthode d'exposition est impartiale. Pour lui, c'est la manière la plus efficace de réfuter le protestantisme. Il le dit au paragraphe 25 de sa préface, qui est évidemment la clé de tout l'ouvrage. Les bons esprits verront bien qu'en cela, ce n'est pas moi, mais la chose même qui parle. Il ne s'agit de rien moins que de faits personnels dans un discours où je me propose d'exposer, sur les matières de la foi, les actes les plus authentiques de la religion protestante. Et on voit pourquoi il est allé chercher des sources uniquement protestantes. Voilà toute la force de l'apologétique de Bossuet. Sur un article de foi capital, il cite les divers textes officiels irrécusables du protestantisme. Il les commente littéralement, s'en tenant à leur sens obvi, il les compare, constate qu'ils se contredisent, tire les conclusions. On ne peut l'accuser de procès d'intention. Il n'interprète pas, il cite. S'il fait des comparaisons avec le catholicisme, ce n'est pas pour imposer a priori sa foi. Il ne veut pas se situer sur un terrain où l'adversaire n'est pas. Il ne compare qu'après avoir montré l'incohérence intenable des protestants, pour proposer comme unique solution viable la continuité romaine. Si nous analysons de plus près cette méthode, nous voyons qu'elle part non pas de raisonnements particuliers ou de conjectures, mais des faits constants et des décisions de foi authentiques. Elle porte sur un point de doctrine essentiel que le protestant, l'hérétique, ne peut éluder. Elle cite les documents officiels sur ce point précis, et il ne s'agit pas de se livrer à un découpage arbitraire des textes. Vous avez vu la longueur de l'énumération que j'ai faite tout à l'heure. Tout y passe. Pas de découpage arbitraire des textes. Il ne s'agit pas non plus d'en faire une exégèse byzantine. Si elle fait référence à des auteurs particuliers, c'est parce qu'ils sont les interprètes autorisés, reconnus du protestantisme, et que leur interprétation a été consignée par écrit. Enfin, elle exploite, comme on dit aujourd'hui, les contradictions internes de ces systèmes de pensée. L'erreur s'accuse d'elle-même. Troisième point, alors quelle est la doctrine sous-jacente? Quelle est la doctrine tant philosophique que théologique qui sous-tend cette apologétique, cette controverse avec les protestants? C'est justement une philosophie réaliste et c'est une théologie catholique. Voilà où je voulais en venir. Sa manière de procéder requiert une doctrine solide, tant surnaturelle que naturelle. Sur le plan théologique, l'Aigle de Meaux affirme implicitement l'opposition irréductible des deux royaumes, celui de la vérité et celui du mensonge. Il énonce leurs caractéristiques. D'un côté la cohésion, de l'autre la division. Il découvre les causes de cet état de fait, l'erreur parasite et occulte la vérité, tout en voulant lui ressembler. Ne pouvant y réussir pleinement, elle se montre sous ses divers aspects, elle varie. Ce faisant, elle trahit son origine. On trouve toujours dans la préface, cette fois-ci au paragraphe 27, cette affirmation. Il ne s'est fait aucun changement parmi les protestants qui ne marque un inconvénient dans leur doctrine et qui n'en soit l'effet nécessaire. Leurs variations, comme celles des Ariens, découvrent ce qu'ils ont voulu excuser, ce qu'ils ont voulu suppléer, ce qu'ils ont voulu déguiser dans leurs croyances. La vérité catholique, elle, par sa seule unité logique, n'a qu'à s'affirmer dans son intégrité, dans son intégralité, pour manifester sa force et sa supériorité. La vérité est à elle-même sa propre justification, la lumière s'éclaire elle-même. Et au plan philosophique, c'est tout simplement l'affirmation et l'utilisation du premier principe de toute philosophie réaliste, le principe d'identité ou de non-contradiction. Et voilà comment on justifie le titre que j'ai énoncé tout à l'heure, « Défense et illustration de la philosophie réaliste » et plus particulièrement du principe d'identité ou de non-contradiction dans l'histoire des variations des églises protestantes de Bossuet. En effet, son argumentation se ramène à l'exploitation de ce principe de non-contradiction. Une chose ne peut pas être et n'être pas en même temps et sous même rapport. L'Église ne peut pas être visible et invisible en même temps et sous même rapport. premier principe découlant immédiatement de la notion d'être. Vous aviez bien raison, monsieur le recteur, de dire que Roland Mounier était réaliste, attaché à la philosophie de l'être, et qu'il devait retrouver dans ce XVIIe siècle qu'il admirait, pour lequel il avait une sympathie profonde, cet attachement-là. Dans le domaine de l'intelligence, dont l'être est l'objet adéquat, ce principe affirme qu'il est impossible à l'être de se révéler vrai et faux en même temps et sous le même rapport. C'est là ce que sous-entend Bossuet. Il est impossible que l'Église soit visible et invisible en même temps et sous le même rapport. Une des deux propositions est fausse nécessairement. Mais j'ai intitulé cette brève communication « Actualité ». Et alors on peut se demander, est-ce que c'est encore actuel? Et on peut se dire que non, parce qu'aujourd'hui, la philosophie n'est plus réaliste. La philosophie, d'aujourd'hui, fait fi de ce principe d'identité ou de non-contradiction. Elle bannit de son raisonnement ce principe. Suspendu le principe de non-contradiction, que reste-t-il? Rien. Et c'est là, au fond, tout le problème. Alors, je crois qu'il faut réaffirmer que le principe de non-contradiction n'est pas facultatif, quoi qu'en pensent les modernes. Il n'est pas le reflet d'une mentalité pré- ou infra-philosophique. Là encore, la chose parle d'elle-même. Tout relativisme, en effet, est autodestructeur, en tant qu'il prétend s'énoncer comme réellement vrai. Voyez le Théétète, le Cratyle de Platon ou le livre 3 de la métaphysique d'Aristote. C'est un système qui se réfute de lui-même. Le douteur, le sceptique, ne peut être logique avec lui-même qu'en s'abstenant d'affirmer et même de donner le moindre signe. Même Cratyle, qui levait le doigt, n'osant plus parler, s'engageait terriblement. Mettait le petit doigt dans l'engrenage du réel, ce qui était terriblement risqué. Non, Aristote l'a bien montré, la seule position logique pour ceux qui refusent ce principe d'identité, ce réalisme, cette philosophie de l'être, la seule position logique, c'est un idéal végétal, voire minéral. Il devrait se comporter comme une souche, idéal auquel prétendent peu de nos contempteurs du dogme catholique. Donc, je termine. L'argument apologétique de Bossuet, se ramenant au principe de non-contradiction, est d'une éternelle actualité. Il repose sur une nécessité intellectuelle dont nul ne peut s'affranchir. C'est le terrain commun par excellence sur lequel se situent obligatoirement tous les êtres rationnels. C'est aussi la position apologétique la plus sûre, parce qu'elle prouve que la vérité catholique est étroitement liée au principe le plus immédiat de l'intelligence humaine, alors que l'hérésie s'en sépare obligatoirement, entraînée par une forme de logique interne particulière vers des contradictions successives. Un autre auteur a développé de façon absolument admirable ce principe d'identité ou non-contradiction dans sa démonstration de l'existence de Dieu. Il s'agit du père Garrigou Lagrange, dans son ouvrage « Dieu, son existence et sa nature ». Il termine de façon imparable par cette affirmation « Dieu ou l'absurdité radicale, Dieu ou le Browning, Dieu ou l'arsenic, il n'y a pas de tertium quid ». Eh bien, on pourrait dire la même chose à propos de Bossuet, c'est l'Église ou l'absurdité radicale. L'Église une sainte catholique apostolique et romaine ou l'absurdité radicale. Ainsi soit-il.
Nous vous remercions, mon père, pour cet exposé d'une rigueur impeccable. Je ferai deux réflexions et une question, simplement. Vous savez que Calvin, à son lit de mort, reçoit les ministres à Genève, et lui qui a fondé la révolution individuelle et le libre examen des Écritures, leur dit « Ne changez rien, car toute novation est mauvaise ». ne sais pas du tout si Bossuet a connu cette phrase que Karl Barth donne d'ailleurs dans ses textes sur Calvin. Deuxième réflexion, vous avez cité Platon, Aristote sur le principe d'identité et de non-contradiction, mais ça se trouve également dans l'Ancien Testament, dans Isaïe, n'est-ce pas ? Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent ce qui est sucré en amer, ce qui est amer en sucré, et qui changent la ténèbre en lumière et la lumière en ténèbre. Donc je crois que là, à peu près à la même époque d'ailleurs, et dans des mondes à la fois sémitiques et indo-européens, on aboutit à des conclusions semblables. Et ma question alors, c'est simplement, est-ce que Bossuet a utilisé Saint-Irénée ? Parce que naturellement, quand on pense aux hérésies, à l'analyse des hérésies, c'est le contre les hérésies de Saint-Irénée qui vient à l'esprit tout de suite. La première partie, l'exposition de la foi catholique, mais la deuxième partie, la dissection des hérésies gnostiques nombreuses à son époque. Est-ce qu'il a été, au point de vue méthodologique, inspiré par ça ? Il ne le cite pas, il ne l'utilise pas.
Il ne le cite pas, il ne le semble pas. S'il s'inspire, ça sera de Saint-Vincent de Lérin, c'est du Communitorium, n'est-ce pas, le Saint-Père, ab omnibus ubique, mais il n'y a pas d'utilisation là.
De Saint-Irénée. Qui veut intervenir ? Jean-Paul Le Flemme, une question ici, une question là.
Monsieur le recteur, vous m'avez enchanté. Je ne vais pas vous poser de question, je ne suis pas assez savant en philosophie. Mais pendant que je vous écoutais sur le principe d'identité et de nos contradictions, et sur les variations des protestants, je pensais au fond que dans notre éducation nationale, nos ministres ont pratiqué la politique de contradiction, au moins depuis à ma connaissance, depuis une quarantaine d'années. Donc je pense que de même que les Iraniens ont le petit livre vert, et les maoïstes avaient le petit livre rouge, on pourrait peut-être faire un petit livre blanc avec le chapitre 15 de Bossuet, parce que lire toutes les variations des protestants, je crois que les ministres qu'on a eus, dont certains étaient protestants, du reste, en se battant la capa. Tout là, je vous ai écouté avec beaucoup de plaisir.
Merci. Une question encore.
Je suis très déçu par l'exégèse de votre vérité, évidemment, je pensais que vous étiez dans le plat, mais je pense que l'orateur, en tant qu'auditeur, me permet d'être candide. Il est certain que 25 ans après Vatican II, après avoir accepté 25 ans de contradiction, on voit maintenant philosophes et théologiens de certains bords, certains employés d'ailleurs, et pas forcément alliés, se battent à la manière des protestants du peuple de ceux pour montrer qu'il y aurait une non-contradiction, qu'il y aurait une continuité, qu'il y aurait une légitimité de telle ou telle doctrine, et qu'il n'y aurait pas une église d'avant.
Alors, je souscris pleinement à ce que vous dites. J'avais précisé mon titre, et c'est un petit peu restrictif, bien sûr, Actualité de la méthode apologétique de Bossuet. Mais les applications que vous suggérez me semblent tout à fait impertinentes, donc pertinentes.
Ça veut dire que l'interprétation de Jean-Paul Le Flemme, c'est l'application au clerc laïque.
C'est ça.
Il y a une autre interprétation parallèle.
Oui,
dans
c'est
un
ça.
Monde de l'antimatière et de la matière.
C'est ça, voilà. Il y a toujours une trahison des clercs quelque part.
Une question ici et une question du père.
Non.
Non.
Ferblé.
Mon père.
J'ai simplement une question de vocabulaire. Je ne vais pas revenir en entier, au moins je repris le passage de l'histoire des variations. Mais plutôt le titre lui-même l'indique, Bossuet ainsi l'emploi. Variation. Mais est-ce qu'il répète souvent, ça vient naturellement, le mot de nouveauté ? Parce que dans notre époque du XVIIe siècle, c'est pas la grande injure,
voilà.
L'échange, c'est la nouveauté, n'est-ce pas ? Aussi bien les Gallicans contre les Tramontains, n'est-ce pas ? La Cour de Rome parle d'une nouveauté extravagante, des arrêts du Parlement de Paris, et le Parlement de Paris riposte des nouveautés extraordinaires de la juridique de la Cour de Rome.
Exactement, mon père, c'est ça. Oui, 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 c'est ça. Le terme, c'est ça, ce sont les novateurs, n'est-ce pas ? Exactement, oui, oui, tout à fait.
Ce qui montre l'erreur, justement, parce que c'est de la tradition de mon père. Mon père, ça n'était pas
Père, je faisais allusion ce matin, n'est-ce pas, à cette dispute annoncée à propos de la réception du Concile de Trente, quand le clergé demandait aux tiers de se joindre pour demander la réception du Concile de Trente. C'est la noblesse. Alors que vous remettez, nous sommes pas des rois qui ont eu soin de nos corps et de nos âmes, ne nous pas reçu, alors nous ne sommes pas plus sages que nos pères. Et c'est toujours cette idée de nouveauté contre laquelle nous sommes.
Exactement. Oui. Exactement.
Je vous remercie. Question. Bien, monsieur le recteur, vous avez parfaitement satisfait puisqu'il n'y a plus de questions. Je vais appeler. Ah, il y a une question au fond.
Pardon. Ah oui. Oui, il faut bien penser, n'est-ce pas, que Bossuet là, ne propose pas de lire la Sainte Écriture. Il propose simplement d'étudier ce qu'il appelle les confessions de foi, on peut dire les credos successifs, et là, dans leur sens obvi. Donc là il ne s'agit pas d'exégèse sur la Sainte Écriture, mais véritablement donc prendre les professions de foi, les manifestes, la confession d'Augsbourg, et de l'étudier comme cela, dans son sens littéral, où là, il n'y a ni parabole, ni interprétation allégorique. Non, non. Voilà.
Oui, je crois qu'il y a encore un rapport, pardonnez-moi, entre Roland Mounier et Bossuet. C'est que Roland Mounier nous a infligé pendant des années la lecture synoptique des textes marxistes, n'est-ce pas, dans son séminaire, pour pouvoir les analyser, voir les variations. Par exemple, de l'idée de classe chez Marx, où il est passé par quatre classes opposées dans le manifeste de 48, puis dans le premier Brumaire de Napoléon, Louis-Napoléon Bonaparte, il passe à 6, puis à 8, etc. Et il faisait peut-être sans le savoir l'histoire des variations des églises marxistes, n'est-ce pas, là-dessus. Mais je me souviens très bien d'une méthode tout à fait analogue que nous avons subie pour notre mortification pendant longtemps, n'est-ce pas, parce que les textes de Marx n'étaient pas particulièrement agréables. Je crois que Jean-Paul Leflemme a dû s'appliquer Rosa Luxembourg, oui, d'autres épigones de Marx, mais c'était au fond le même état d'esprit qu'il retrouvait peut-être sans le savoir. Nous allons passer alors à Jean-Pierre Brancourt, et comme nous avions commencé ce matin avec le père Blais à parler d'un ouvrage qui probablement est d'ailleurs l'un des meilleurs de Roland Mounier.